Une autre victoire pour le président Trump, Raphaël Jacob, après vendredi où le Sénat a voté très tard en faveur de sa réforme fiscale. Voilà que la Cour suprême lui donne une victoire parce qu'elle valide son très controversé décret migratoire.
J'adore que tu fasses le lien, Paul, avec ce qui se passe au niveau de la réforme fiscale au Congrès, parce que le parallèle est extrêmement pertinent. C'est-à-dire que dans les deux cas, on a eu un nouveau président qui, depuis le tout début de son entrée en fonction, s'est vraiment buté aux institutions majeures du système politique américain. Donc, avec le Congrès, ça a été très, très, très difficile de faire aboutir à peu près quoi que ce soit. Et là, dans les derniers jours, ça semble vraiment débloqué avec la réforme fiscale. On commence, en fait, au niveau des deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat, à négocier une version finale qui pourrait être adoptée au courant des prochains jours, potentiellement. Et au niveau de la Cour, des tribunaux fédéraux, en fait, on avait eu un revers après l'autre qui avait été infligé aux différentes versions, parce qu'il y en avait eu plusieurs, différentes versions des décrets migratoires du président Trump. Et bien donc, après des mois d'échecs, on a une victoire qui est, je dirais, d'abord et avant tout symbolique, parce que c'est un décret qui est de par sa nature temporaire, un décret migratoire qui est de nature temporaire et qui ne touchera sans doute pas tant de gens que ça, du moins directement. Mais d'un point de vue symbolique, c'est quand même une grosse victoire. Donc, la Cour suprême des États-Unis qui a validé en toute fin de journée aujourd'hui, de façon essentiellement totale, la dernière version du décret migratoire. Ce que ça fait concrètement, c'est que le gouvernement américain va pouvoir, comme il voulait le faire, interdire, je le répète, sur une base temporaire seulement, l'entrée aux États-Unis de ressortissants d'une demi-douzaine de pays dans le monde. Au niveau des détails de la décision, ça devra attendre demain parce que, comme je viens de le mentionner, ça vient de tomber. Mais ce qui est clair, quand même pour l'instant, c'est que c'est une grosse victoire symbolique pour le président.
Le président, justement, qui est revenu sur le cas de Michael Flynn, son ancien conseiller à la Sécurité nationale. On sait qu'il a formellement plaidé coupable d'avoir menti au FBI vendredi.
C'est exact, Paul. Et le président s'en est pris à nul autre que Hillary Clinton, pour faire un parallèle. Je sais que ça te surprend pas, mais écoute, il la sort à toutes les sauces. C'est sa meilleure arme d'autodéfense. Et donc, pour essayer, si on veut, d'éponger la situation ou de la faire paraître un petit peu moins pire qu'elle est, il a essayé de faire un parallèle avec la situation qui avait touché Mme Clinton. On écoute l'extrait de ce matin.
Hillary Clinton lied many times to the FBI. Nothing happened to her. Flynn lied and they destroyed his life. I think it's a shame. Hillary Clinton, on the 4th of July weekend, went to the FBI, not under oath. It was the most incredible thing anyone's ever seen. She lied many times. Nothing happened to her. Flynn lied and it's like they ruined his life. It's very unfair.
Ben, écoute, là-dessus,
il a même dit qu'il avait de la peine pour son ancien conseiller à la Sécurité nationale.
C'est exact. Et il faut quand même faire preuve, je dirais, de justesse et d'équité envers Trump. Il n'y a pas entièrement tort au niveau de son parallèle avec Hillary Clinton, parce qu'il y a des très, très sérieuses questions qui se posent au niveau du traitement que Mme Clinton a reçu. Le fait que, comme Trump l'a mentionné, elle a pu, alors qu'elle était sous enquête criminelle par le FBI, aller témoigner sans être sous serment, et le fait qu'elle a menti à plusieurs reprises et que, je dirais pas comme le président l'a fait, qu'elle n'a eu aucune conséquence, là, elle a quand même eu la conséquence de perdre l'élection présidentielle, mais elle n'a pas eu de conséquences légales, alors que M. Flynn se dirige probablement en prison. Donc, le parallèle jusqu'à un certain point se tient. Le problème pour Trump, c'est que au bout de la ligne, en fin de journée, là, aujourd'hui, on se parle, et c'est son équipe qui est présentement sous enquête et c'est son ancien conseiller à la Sécurité nationale qui se dirige vers une peine de prison et qui semble être en train de collaborer avec l'équipe d'enquête de M. Mueller. Ça, il n'y a absolument rien au niveau du comportement passé, présent ou futur d'Hillary Clinton ou de n'importe quel autre rival politique qui va changer ça. Et il y a des très sérieuses questions que Donald Trump a lui-même, je dirais, créées au courant de la fin de semaine par rapport à sa réaction, parce que il a tweeté avant la réaction qu'on vient d'entendre, là, il a tweeté quelques heures auparavant que la raison pour laquelle il avait congédié Michael Flynn était que Flynn avait menti à la fois au vice-président et au FBI. Évidemment, la grosse question que ça vient soulever, c'est si Trump, le président des États-Unis, savait depuis des mois que Flynn, un membre de son cabinet, avait menti au FBI, ce qui est évidemment un crime fédéral, pourquoi est-ce qu'il ne le dévoile que maintenant?
Ben oui.
Tout ça pour te dire qu'il y a vraiment les deux pieds dans les plats et il y a personne qui peut mettre ça sur le compte d'Hillary Clinton. Donc, il y a des questions très sérieuses auxquelles lui et son équipe vont devoir avoir continué à répondre.
On va être fixé dans 8 jours sur la fameuse élection pour remplacer Jeff Sessions au Sénat, c'est-à-dire l'élection du Sénat Alabama, en Alabama. Et Roy Moore, celui qui fait face à des accusations de la part de victimes, de présumées victimes, disons-le, eh bien, a reçu officiellement l'appui du président américain Donald Trump.
Ben, écoute, Paul, Roy Moore a reçu 2 choses aujourd'hui même. La première, ça s'est tombé ce matin, c'est l'appui officiel du président Trump, comme tu viens de le mentionner. On sait que Trump avait tergiversé. Il y a des jours qu'on pensait qu'il était pour Moore, d'autres peut-être pas, d'autres peut-être. Là, aujourd'hui, c'est sorti vraiment de façon formelle, définitive. Non seulement il est contre l'adversaire démocrate de Moore. Donc, ça, on le savait déjà, c'était un appui implicite de Moore. Là, on est allé avec un appui très, très explicite en disant qu'on appuie et qu'on devrait voter pour Roy Moore. On croit même que Donald Trump risque de se rendre en Alabama d'ici à mardi prochain pour faire campagne activement pour Moore. Donc, ça, c'est tombé ce matin. Le problème pour Roy Moore, c'est que en toute fin de journée, il y a à peine quelques minutes, il y a quelque chose d'autre qui est tombé. Et ça, c'est pas un appui, au contraire. C'est une nouvelle révélation choc du Washington Post à l'effet de quoi une des femmes qui aurait fréquenté Moore alors qu'elle était mineure et lui était majeur est sortie avec ce qui semble être une preuve documentant leur relation. C'est-à-dire que Moore nie dans ce cas-là spécifique, qu'il connaissait la femme en question. Il y a des raisons assez évidentes pour lesquelles il nie la chose. Il avait 34 ans à l'époque, elle en avait 17. Or, la femme en question, Mme Gibson, est sortie aujourd'hui avec ce qu'on appelle un scrapbook, essentiellement une espèce d'album de finissante de ses jours au secondaire, dans lequel on voit très clairement un mot rédigé et signé par Roy Moore, souhaitant à la femme en question, la jeune fille à l'époque, une bonne graduation. Écoute, Paul, 34 ans, là, c'est l'âge que j'ai présentement. S'il fallait que demain matin, j'écrive des petites notes affectueuses dans des cahiers de finissantes de filles de secondaire 5 de 17 ans, j'espère que à peu près tout le monde serait en train de poser des sérieuses questions par rapport à mes activités. Donc, tout ça pour te dire que dans le cas de Roy Moore, c'est très, très, très sérieux. Et non seulement il y a ce avec quoi composer, mais tu as même Mitt Romney, l'ancien candidat républicain pour la présidence d'il y a 4 ans, qui est sorti sur Twitter lui aussi il y a à peine quelques minutes en disant qu'élire Roy Moore au Sénat, ça représenterait une tâche à la fois pour l'institution, pour le Sénat et pour le Parti républicain.
On sera fixé dans 8 jours, c'est le 12 décembre. Merci beaucoup, Raphaël. À demain.